membres du FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé droit, c'est marqué go sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement. Hein.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il est 19h04 sur les ondes rebelles de Radio Canu 102.2 FM. Et c'est le Canu Info du vendredi. Un Canu Info ce soir très complet. On vous commencera par parler local en faisant un petit retour sur la manif contre la réforme des allocations chômage qui s'est tenue ce matin à Lyon.
Et ensuite, on communiquera un communiqué pour le rassemblement de demain pour la fierté lesbienne.
Et puis, il y a aussi des questions de logement qui se posent à Lyon. Et donc, il y a un communiqué du collectif Hébergement en danger dont on fera une petite lecture.
Ensuite, on passera au national et on va parler des apatistes qui nous rendent visite.
Une fois qu'on sera allé voir les apatistes qui nous rendent visite, on vous parlera un petit peu des vaccins. C'est un sujet à la mode et on vous expliquera pourquoi nous sommes en train de payer les vaccins deux fois. Une fois pour la recherche et puis ensuite une fois auprès de l'assurance maladie qui finance les laboratoires.
Après l'international, on va aller en Suisse et on va parler de la justice pour Hervé qui a été tué par un policier en 2016.
International toujours, puisque on ira en Géorgie où des habitants et des habitantes se mobilisent depuis le mois d'octobre contre la construction de deux barrages hydroélectriques. Ensuite, on fera le traditionnel agenda. On vous rappelle qu'à la fin, il y aura le traditionnel ACAB du Canu Info du vendredi. Si vous voulez nous appeler pour proposer un ACAB, c'est au 04 78 39 18 15. Il est 19h06 sur Radio Canu. Bonne écoute.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Vous voyez bien, la précarité, elle n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous êtes en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. En chantant, on résiste.
Et on résiste sur Radio Canu, on résiste même un petit peu partout sur le territoire actuellement contre une réforme de l'allocation chômage. C'est notamment à cause d'elle et contre elle qu'il y a des occupations de lieux culturels actuellement. Ce matin, c'était manifestation dans les rues de Lyon et on a laissé traîner nos micros.
Chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, solidarité. Chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, avec ou sans papier. Chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, solidarité.
On fait des bruits. Encore plus de bruits.
Alors, l'objectif de la réforme est très simple. Il y a deux fondements de base de cette réforme. C'est exclure des centaines de milliers de chômeurs de l'indemnisation chômage, du régime de l'indemnisation chômage, ou diminuer un peu, beaucoup, passionnément, les allocations de plus d'1,2 million de chômeurs. En gros, cette réforme, elle va toucher dans son ensemble 1,7 million de chômeurs et de chômeuses, donc soit en les excluant du régime de l'indemnisation. Alors pour ce faire, il modifie les modes de calcul. Donc aujourd'hui, il faut avoir travaillé 4 mois sur 28 mois pour pouvoir prétendre à l'assurance chômage et être indemnisé. Il faudra désormais travailler 6 mois sur 24 mois, donc plus longtemps sur moins de temps, pour pouvoir toucher des indemnisations. Donc ça, c'est très simple. L'effet immédiat, ça va être d'exclure, donc, comme je disais, des centaines de milliers de personnes de ce régime-là. Et puis l'autre fondement, vraiment le pire, l'un des pires de cette réforme, c'est le changement des modes de calcul. Aujourd'hui, pour calculer l'indemnisation mensuelle, ça se fait sur les jours et les semaines travaillées, alors que dorénavant, ce sera à la fois sur les journées et les temps de semaines travaillées et les temps de semaines et les journées non travaillées. Donc, par exemple, quelqu'un qui a travaillé sur 24 mois, qui a travaillé 6 mois, eh ben, seront également pris en compte ces temps de chômage, soit si la personne est au RSA, soit si elle est déjà au chômage. C'est comme ça que ce sera calculé. Et donc, ça va réduire jusqu'à 40% des indemnisations chômage. Et ceux et celles que ça va toucher immédiatement, c'est ceux et celles qui sont dans le travail discontinu. Donc, c'est déjà celles et ceux qui sont les plus précaires. Cette réforme, c'est vraiment un coup contre les plus pauvres et les plus précaires de ceux qui étaient censés ou qui bénéficient toujours de l'assurance chômage. Après, il y a quelques autres points, comme par exemple la dégressivité des allocations pour les cadres, ceux qui sont au chômage. Donc c'est aussi pour ça que la CGE, CGC, je crois bien, y est opposée. Et puis le dernier point, et ça c'est le côté style, on s'attaque au patronat, il y a un bonus-malus pour les entreprises. Celles qui embauchent beaucoup en CDD auront un petit malus en ce qui concerne les cotisations patronales, et celles qui embauchent peu en CDD et beaucoup en CDI, en contrat plus long, auront donc un bonus en ce qui concerne les cotisations patronales. C'est pour ça que le MEDEF y est opposé, mais par contre, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est une réforme qui est menée main dans la main entre le MEDEF, le ministère du Travail, Elisabeth Borne et Jean Castex et Macron. Elle est prévue depuis le début du quinquennat. Ils l'ont reportée l'année dernière sous couvert et à raison de crise économique et de crise sanitaire, puisque c'est un désastre social annoncé. Et là, par contre, on est en 2021 et tout va mieux, donc on peut l'appliquer comme si on n'était pas dans une des pires crises économiques de l'histoire, probablement la pire depuis les années 30, et que les licenciements commençaient pas déjà à tomber en cascade dans les entreprises, et que ce n'est qu'un début. Donc des chômeurs et des chômeuses, des gens qui vont avoir besoin d'un régime d'indemnisation chômage important, soudé, et ben ceux-là, pour beaucoup, ils vont se faire exclure. Et on rappelle quand même ici que le chômage, c'est pas un cadeau de l'État, c'est issu de nos cotisations salariales et des cotisations patronales, mais qui sont issues de notre travail. C'est du salaire indirect, c'est du salaire différé, et même depuis 2019, si c'est la CSG qui est prise en compte, et bah c'est exactement le même principe, c'est issu de notre salaire, c'est pompé sur notre salaire, et donc c'est nous qui nous payons notre propre chômage, c'est pas l'État et c'est pas un cadeau.
À ceux qui osent précariser les jeunes,
résistance. Moi, je m'appelle Marie, je fais partie du STA, le syndicat des travailleurs artistes-auteurs de la CNTSO, et on regroupe des personnes qui travaillent sous le statut d'artiste-auteur. Ça peut être aussi bien des écrivains que des plasticiens, plasticiennes, traducteurs, traductrices, scénaristes, etc. Donc tous les gens qui relèvent du statut d'artiste-auteur. Et c'est un statut qui est un peu particulier parce que en fait, nous, on n'a pas le droit à l'assurance chômage. On ne cotise pas pour l'assurance chômage, donc on n'y a pas droit. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de défendre l'assurance chômage, parce que nous, on aimerait y avoir droit.
Rejoignez-nous, ne nous regardez pas.
que je peux dire, c'est que moi, ça fait 15 ans que je travaille sans avoir droit à l'assurance chômage. Et en fait, c'est la merde. Et c'est la merde aussi bien quand on est au chômage que quand on est en emploi. C'est la merde quand on est au chômage parce qu'on n'a absolument aucun revenu entre deux contrats, que ce soit des contrats de commande ou que ce soit des productions personnelles qu'on vend. Mais en tout cas, voilà, quand on n'a pas de revenus, on n'a pas droit au chômage. Donc au maximum, on a droit au RSA ou à ce genre de choses. Ce qui est toujours compliqué à obtenir, etc. Et souvent, on est face à des gens qui comprennent et connaissent mal notre statut. Et le fait de ne pas avoir de revenus quand on ne travaille pas, ça crée également une situation très difficile quand on travaille, parce que ça crée une concurrence en fait très forte entre les travailleurs travailleuses, parce que on est parfois obligé d'accepter des conditions de travail pas très glorieuses, mauvaises, des mauvais tarifs, etc. Parce que ben, quand on a droit à rien du tout quand on ne travaille pas, et ben on prend ce qu'il y a parfois, et même même quand c'est des prix très bas. Et du coup, ça a des conséquences négatives à plusieurs niveaux. Et aussi parce que ben, quand on travaille, quand on a la chance d'avoir du boulot, en fait, on peut vite se retrouver au bord de l'épuisement professionnel. Parce que comme on sait qu'on n'a rien, qu'on n'a pas de filet de sécurité en cas d'inactivité, ben, on prend tout ce qu'il y a, on prend, quitte à s'épuiser. Donc je pense qu'en fait... la lutte pour l'assurance chômage, en réalité, et contre la casse de l'assurance chômage, ça ne devrait pas être une lutte de précaires. Ce n'est pas spécifiquement une lutte de précaires. C'est une lutte qui est importante pour tout le monde, pour tous les travailleurs, toutes les travailleuses, parce que, en fait, l'absence de protection va pousser à plus de pression sur les travailleurs et les travailleuses. Et donc, quelqu'un qui va cotiser toute sa vie pour le chômage, même si jamais il ne se retrouve au chômage, en fait, il n'aura pas cotisé pour rien, il aura cotisé pour défendre ses propres conditions de travail.
La volonté du gouvernement et puis des réformes qui touchent Pôle emploi de toute façon, c'est d'arriver vers un système à l'allemande, c'est-à-dire qu'on est un nombre de plus en plus conséquent de travailleurs pauvres qui ne font pas partie des chiffres du chômage, mais qui sont par contre largement en dessous du seuil de pauvreté. Et donc exclure le plus possible de chômeurs et de chômeuses du régime de l'indemnisation chômage ou diminuer leurs allocations, c'est les forcer à trouver des tafs sous-payés, loin de chez eux et qui n'ont rien à voir avec leurs compétences ou leurs diplômes. Les chômeurs et les chômeuses sont des personnes qui sont quand même globalement isolées, donc c'est difficile de les organiser. C'est bien pour ça que là, ces occupations de théâtre, de lieux culturels à l'échelle nationale, c'est un énorme moyen pour s'organiser, se mobiliser et tenter de mobiliser les chômeurs et les chômeuses, parce qu'on a des lieux pour s'organiser, des lieux pour se rencontrer. Et c'est d'ailleurs, je lance un appel, venez aux assemblées générales du TNP ou de l'Opéra. Le TNP, c'est lundi, mercredi et samedi à 12h30 toutes les semaines, et donc on en est qu'au début de cette lutte. Il y a une coordination nationale qui va se dérouler la semaine prochaine à Lyon avec le plus de lieux possibles culturels de France occupés et peut-être même d'Europe, parce qu'il y aura peut-être des Belges et des Italiens, pour s'organiser ensemble, faire front. Et cette revendication de la réforme de l'assurance chômage, c'est notre revendication principale. Quand les médias disent que notre revendication c'est la réouverture des lieux culturels, c'est faux. Notre revendication principale, c'est la prolongation des droits sociaux pour les chômeurs, les chômeuses, les intermittents du spectacle, de l'emploi et toutes celles et ceux qui morflent en ce moment par rapport à la crise sanitaire et économique.
C'était aujourd'hui dans les rues de Lyon, dans les rues un peu partout, des manifestations contre cette réforme infâme des allocations chômage. Il y aura probablement bientôt d'autres manifs. En attendant, on a très très vite une date qui arrive, qui est le 1er mai, c'est samedi dans une semaine, samedi en 8 comme on dit parfois. Et on espère que lors du 1er mai, ce sera une bonne occasion aussi de parler de cette réforme inique du chômage. On vous retrouve très bientôt dans la rue.
Et donc maintenant, on va parler de la fierté lesbienne à Lyon qui aura lieu donc demain, le 24 avril. Et il y aura un rassemblement qui sera Place de la Comédie. Et on va vous lire leur communiqué. Donc nous, lesbiennes et bi de différents horizons et organisations politiques, appelons à prendre la rue le 24 avril à Lyon. Lyon est le berceau de la manif pour tous, mais nous décidons d'y battre le pavé pour ne pas laisser l'extrême droite répandre ses idées réactionnaires et parce que nous sommes présentes dans cette ville comme partout ailleurs. Le 26 avril est la journée dite de visibilité lesbienne. Mais nous exigeons davantage que d'être simplement vues, entendues ou représentées. Nous, lesbiennes, nous existons, nous résistons, nous exigeons. Nous existons, loin des fantasmes hétérosexistes et du cliché de la lesbienne prédatrice. Nous avons une histoire, même si certains cherchent à l'effacer, et il nous semble aujourd'hui nécessaire de reconquérir cette mémoire collective. Nous avons peu d'espace de sociabilité et de reconnaissance, et pourtant nous construisons des relations, des couples, des familles. Nous existons et avons toujours été en première ligne des combats féministes. Nous nous sommes battus pour l'accès à la contraception et à l'IVG. Nous avons lutté pour la reconnaissance du travail domestique et pour l'indépendance économique des femmes, contre les violences sexistes et sexuelles, etc. À présent, nous élevons nos voix pour défendre nos droits, nos corps, nos existences, nos familles, nos vies. Nous résistons, nous sortons du placard pour lutter contre une double oppression, le sexisme et l'homophobie. Double oppression que nous subissons au quotidien, que ce soit au travail, dans nos familles, dans l'espace public, dans des cabinets médicaux. Parce que la lesbophobie est une double peine, nous voulons renverser le régime patriarcal et hétérosexuel qui nous opprime, nous exploite et nous divise. De plus, certaines d'entre nous subissent d'autres formes d'oppression contre lesquelles nous luttons sans relâche. Racisme, validisme, cis-sexisme, putophobie, grossophobie, etc. Nous nous opposons à la récupération des luttes contre la LGBT-phobie à des fins racistes, à la loi liberticide sécurité globale et à la loi islamophobe sur les valeurs républicaines. Nous n'avons pas besoin de plus de police et nous voulons continuer à nous réunir en non-mixité pour nous organiser, pour respirer. Nous avons toujours été engagés contre les différentes formes d'oppression et nous n'avons pas l'intention d'arrêter. Nous résistons face aux réactionnaires de tous bords qui veulent nous effacer et nous restreindre au silence par le mépris ou par la violence. Nous réclamons l'accès à la PMA pour toutes et tous, gratuite et sans condition. En avril 2021, comment pouvons-nous nous satisfaire d'un projet de loi qui est sans cesse repoussé et qui, dans son état actuel, exclut les personnes trans et restreint les droits des couples lesbiens ? Nous réclamons aussi le droit de vivre nos amours et nos vies comme nous l'entendons, débarrassés des normes et des contraintes hétéropatriarcales. Car nous sommes bi ou lesbiennes, car nous sommes fières, car nous sommes féministes, radicales et en colère. Nous lesbiennes, nous existons, nous résistons, nous exigeons. Venez soutenir nos luttes le samedi 24 avril, place de la Comédie à 15h.
Donc le 24 avril, c'est demain, on vous en reparlera sans doute aussi dans l'agenda. Il y a un autre communiqué particulièrement intéressant qui est paru récemment, qui parle d'hébergement et qui vient du collectif Hébergement en danger. Le collectif Hébergement en danger est un collectif de travailleurs et de travailleuses de l'hébergement et de l'urgence sociale qui est né en novembre 2018. Ne pouvant plus organiser de réunions publiques à cause du contexte sanitaire, le collectif a écrit un communiqué pour partager quelques informations et réflexions à propos de la situation de l'hébergement sur le département. On vous en donne lecture. En mars 2021, on compte plus de 9000 demandes d'hébergement sur le Rhône. Depuis un an, les délais d'accès à un hébergement ont augmenté, allant jusqu'à 5 ans pour certaines. Dans le cadre de la crise sanitaire en mars 2020, beaucoup de places ont été ouvertes. La crise du Covid-19 nous a prouvé qu'un effort peut être fourni et que de potentielles places existent puisqu'elles apparaissent quand la Sûreté nationale est en cause. Cela est entendable au temps de crise, mais inadmissible quand le discours tenu depuis plusieurs années aux différents collectifs lyonnais est qu'il n'est pas possible de créer de nouvelles places d'hébergement. Le prolongement des hébergements plan froid de l'année dernière sur le plan zéro remise à la rue ont créé un effet de coupe-fil. Actuellement, il faut passer par un dispositif de plan froid ou plan Covid pour accéder à un hébergement. Cela exclut toute ou partie de la population, les personnes isolées, les familles avec enfants de plus de 3 ans ou sans vulnérabilité qui seraient reconnues par la maison de la veille sociale. L'incompréhensible priorisation des personnes ne permet plus de saisir comment fonctionnent les attributions de place, rendant injuste toute l'organisation de ce système. premier arrivé, premier servi, qui est un peu la règle, dans un contexte de manque criant de place, c'est très lacunaire comme politique. À ce jour, obtenir une place d'hébergement dépend d'une loterie dont personne ne comprend les règles. La fermeture antérieure des places urgence par la direction départementale de la cohésion sociale ne permet plus à la maison de la veille sociale de respecter la loi d'inconditionnalité de l'hébergement. Comme chaque hiver, nous avons assisté à la création d'une politique de l'hébergement, de crise, sur le même modèle que la politique du thermomètre. L'hébergement précaire se normalise. Dans des bâtiments en transition, la date de fin d'hébergement et d'accompagnement est inconnue. Dans des bâtiments inutilisés, nuisibles, parasites, vieilles constructions rendent l'habitat insalubre. Les financeurs mettent en concurrence les associations qui doivent se positionner sur des projets financiers à court terme. Les équipes doivent réaliser de plus en plus vite des mises à l'abri. Des contrats précaires se multiplient au service des projets à courte vue. Les associations sont contraintes de délaisser leurs valeurs humanistes au profit de visions gestionnaires. Un discours social ou un coup d'État médiatique ? Un coup médiatique, tout simplement. Les décideurs, au lieu de penser des politiques publiques cohérentes et transparentes, agitent en réaction à l'émotion du grand public. Un accompagnement de qualité se fait dans la durée. Pour les familles sans droit ni titre, l'entrée par l'hébergement précaire de plan froid est la norme depuis de nombreuses années. Toutefois, avec la disparition des places d'urgence pérennes, cette précarité est la seule alternative. Ainsi, le collectif Hébergement en danger demande le respect de la loi sur l'inconditionnalité de la continuité de l'hébergement, l'ouverture de 10 000 places d'hébergement qui correspondent à toutes les demandes d'hébergement dans le Rhône, la régularisation de tous et toutes les sans-papiers, des politiques publiques en matière de logement et d'hébergement cohérentes et sur le long terme, l'inclusion des travailleurs et travailleurs sociaux et des personnes à la rue et hébergées dans les prises de décision. Décideurs, arrêtez de vous entourer de chargés de communication, entourez-vous de travailleuses et de travailleurs sociaux. L'arrêt, enfin, du système d'appel à projet qui met en concurrence les associations et qui génère une gestion de l'hébergement au rabais, low cost. Alors, si vous souhaitez rejoindre le collectif ou partager un témoignage ou des informations que vous auriez, vous pouvez écrire à collectifhébergementendanger@gmail.com ou vous rendre sur le Facebook Collectif Hébergement en danger.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et maintenant, on va passer un petit audio des apatistes qui se présentent parce qu'ils nous rendent visite.
¿Será que vamos a seguir así o no?
¡No!
Bueno, compañeras, nuestra lucha hay que seguir, hay que echar la gana, compañeras. Porque yo, ¿desde cuándo que estoy en la lucha? Pero no me aburro, estoy tranquilo en mi lucha, compañeras.
Et l'année 2021 sera un año de lucha.
Une délégation du mouvement zapatiste et d'autres groupes de peuples originaires en lutte se rendra sur les 5 continents, en commençant par l'Europe.
Cette délégation sera composée de 160 compas,
dont 75% de femmes. Il s'agit d'un mouvement pluriel, émancipateur et continu contre le capitalisme, le racisme et le patriarcat.
Le sous-commandant Moïses, porte-parole de l'armée zapatiste de libération nationale, EZLN, explique.
Après avoir voyagé dans différents coins de l'Europe, en bas à gauche,
nous arriverons à Madrid le 13 août 2021, 500 ans après la prétendue conquête de ce qui est aujourd'hui le Mexique.
Nous allons naviguer vers des pays lointains. Nous n'allons pas chercher les différences, mais nous trouverons ce qui nous relie. Car nous sommes vivantes malgré les paramilitaires, la pandémie et les grands projets inutiles. cette initiative des zapatistes nous invite à briser la résignation,
semer l'espoir et ébranler à nouveau le statu quo du système en place, ainsi que construire de nouvelles voies de solidarité et de lutte.
Les réseaux de solidarité européens prennent en charge les frais d'accueil et d'organisation logistique de la délégation, ainsi que les frais de transport à l'intérieur de l'Europe.
Beaucoup d'argent est nécessaire pour ces frais et la logistique. Nous ne voulons pas que l'argent soit un frein à la réussite de ce voyage.
Nous nous réjouissons de cette nouvelle initiative des zapatistes et appelons
toutes les personnes, collectifs et organisations solidaires à soutenir,
entre autres financièrement, cet événement historique.
Pour faciliter le don, la coordination francophone d'accueil de zapatistes a créé une association pour récolter le don.
Rendez-vous sur Hello Asso, la route pour la vie 2021.
Hello Asso, la route pour la vie 2021.
C'est quoi ça?
Hello Asso.
C'est une site
Hello Asso.
Internet. Hello Asso,
la route
Hello
pour la vie 2021.
Hello Asso, en anglais,
la route
Hello
pour la vie 2021.
Asso. La route pour la vie 2021.
Soñé que se levantaba y que por fin enterraba este animal que se apesta.
Et à Lyon, il y a une commission locale d'accueil s'est créée. Elle a pour but donc de créer des événements collectifs d'échange sur les luttes, entre autres. Et si vous avez envie de rejoindre cette commission, la prochaine réunion a lieu le dimanche 2 mai à la Friche Lamartine. Et si jamais vous voulez contacter c'est possible de leur écrire à accueil ezln69@riseup.net.
Est-ce que... Ouais, c'est parfait. Et j'ai retrouvé le micro. Et par ailleurs, je vais essayer de ne pas faire une syncope sur le message précédent. À la radio, on a des règles sanitaires extrêmement strictes. Donc, je porte un masque FFP2 pour me protéger un peu et protéger les autres. Et du reste, ça m'empêche complètement de lire parce que je m'essouffle extrêmement vite. Je vais essayer néanmoins, chères auditrices, chers auditeurs, de faire quelque chose d'entendable. Donc, on voulait vous parler un petit peu de la question des vaccins, selon un prisme qui n'est pas leur efficacité, mais qui est celui de leur coût. En fait, nous payons les vaccins deux fois, une fois pour la recherche et une deuxième fois par l'assurance maladie. Je reprends ici une tribune des animateurs de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Le Premier ministre bulgare, Boyko Borisov, a annoncé que la Commission européenne devrait payer plus cher une nouvelle livraison de vaccins Pfizer. Le tarif serait déjà passé de 12 à 15,50 euros la dose et pourrait atteindre même 19,50 euros pour la prochaine commande de 19 millions de doses qui coûterait donc 3 milliards de dollars. Le conditionnel s'impose tant l'opacité règne sur la fixation de ces prix. La Commission européenne refuse de publier les contrats passés avec les compagnies pharmaceutiques qui nous permettraient de connaître les conditions tarifaires, mais aussi les engagements pris pour anticiper les pénuries ou pour y répondre, les pénalités éventuelles imposées aux entreprises en cas de manquement. Donc en fait, on sait que dalle. De même, la Commission européenne n'a pas communiqué sur les aides publiques à la recherche sur ces vaccins, ni imposé aux industriels de communiquer le montant des dépenses et investissements en recherche et développement ou le coût de production. Sans ces informations, en fait, il est quand même assez impossible de savoir de façon rationnelle à quoi correspondent les prix des produits de santé. La Commission européenne a pu bénéficier de prix inférieurs à d'autres, mais doit faire face à des retards de livraison. Par exemple, le Royaume-Uni a payé 16,30 € la dose, ou Israël 22,70 € la dose, donc des tarifs quand même quelques dizaines de pourcents supérieurs à ce qu'a payé l'Union européenne, mais ce sont aussi des pays qui ont acheté des doses plus chères et qui se sont fait livrer plus vite. L'accès à un produit vital est donc soumis à la loi de l'offre et la demande, hein, c'est le capitalisme pur. Les pays qui ont donc les moyens sont prioritaires. Une telle logique est évidemment incompatible avec un droit universel et effectif à la santé, et elle est par ailleurs totalement inepte pour affronter une pandémie qui implique une réponse globale, coordonnée, sous peine de susciter des variants résistants qui pourraient compromettre l'efficacité des vaccins. Je crois que vous en entendez beaucoup parler ces temps-ci, mais évidemment, il y a un petit peu cette problématique. L'inscription de la santé dans la loi de l'offre et la demande n'a rien de nouveau. On la voit un peu partout, et des maladies que l'on sait contrôler ou bien guérir, comme le sida, la tuberculose, les hépatites virales ou encore le diabète, tuent car les médicaments qui pourraient sauver des vies sont trop chers et que leur prix est illégitime. La crise que nous traversons doit être l'occasion de reprendre les combats menés par les activistes des pays des Sud depuis des décennies pour changer enfin le système à l'échelle planétaire. Alors, de très nombreux exemples attestent que nous payons les médicaments, les diagnostics ou encore les vaccins aujourd'hui au moins deux fois. Une fois pour la recherche, une deuxième fois par sa prise en charge par l'assurance maladie. Dans le cadre des vaccins contre le Covid-19, on sait par exemple que dès novembre dernier, Pfizer a reçu au moins 375 millions d'euros d'argent public allemand et au moins 100 millions d'euros de la Banque publique d'investissement européenne. De son côté, Moderna, qui a bénéficié des structures de recherche publique du NIH, le National Institutes of Health, donc américain, a par ailleurs reçu au moins 953 millions de dollars d'aide publique états-unienne. De plus, la mise au point si rapide de vaccins contre le Covid-19, en fait, elle a été permise et devenue réaliste grâce aux avancées technologiques des dernières années. Et une récente étude parue dans la revue Vaccine a évalué à 17,2 milliards de dollars l'argent public investi par le seul NIH américain, donc, dont on parlait précédemment, dans les recherches qui ont permis ces avancées technologiques, notamment sur les vaccins ARN. On ignore totalement combien ont été investis en Europe et en France, mais ça peut sans doute se chiffrer en milliards de dollars d'argent public de soutien à la recherche. Et à ce soutien public à la recherche, il faut ajouter le système des précommandes qui a fourni aux compagnies une trésorerie, un filet de sécurité qui ont minimisé leurs risques financiers. En gros, les États se sont engagés, ont précommandé un certain nombre de doses, qui limitait évidemment fortement le problème. Le système des brevets, hein, c'est là-dessus que ça repose, en fait, il est assez légitime ici, parce qu'en fait, il repose sur une garantie au détenteur d'un monopole et donc un pouvoir sur la fixation du tarif qui tire sa légitimité du risque de l'investissement qui aurait été soi-disant engagé. C'est en tout cas tout le discours des entreprises. En l'absence d'éléments qui permettraient d'évaluer le risque pris par les entreprises, éléments qu'elles refusent de communiquer, on peut dire que les brevets sur les vaccins sont illégitimes et que nous payons bien ces vaccins une deuxième fois après avoir financé leurs recherches. Ce gaspillage d'argent public se fait alors que l'austérité continue de frapper notre système de santé, hein, notamment l'hôpital public. On a bien vu que malgré une pandémie mondiale, on continue de saccager largement l'hôpital public. En empêchant les technologies de circuler, les brevets forment aussi des freins à la production et ce sont une des causes des pénuries qu'on peut subir sur les vaccins, on en a entendu parler. En permettant que soient fixés des prix exorbitants et légitimes, les brevets menacent la pérennité de nos systèmes de santé solidaires en détournant l'argent public des besoins réels et en empêchant les malades des pays pauvres d'avoir accès à des produits pouvant sauver leur vie. Et dans le cas d'une pandémie, ne l'oublions pas, la nôtre avec. Pourtant, il y a un certain nombre de solutions qui existent. La Commission européenne et le gouvernement doivent faire toute la transparence sur les vaccins et les technologies contre le Covid-19. Quelles sont les aides publiques reçues? Quelles ont été les dépenses et les investissements en recherche et développement? Quels sont les coûts de production, la marge des intermédiaires? Quelles sont la publication des contrats? Il faut publier les contrats signés avec les industriels, publier les protocoles sur les recherches en cours, sur les résultats intermédiaires. Les prix doivent donc être renégociés et baissés drastiquement au vu de la réalité des investissements publics et de l'absence de risques pris par les entreprises. Les barrières de la propriété intellectuelle doivent être levées. La France et la Commission européenne doivent enfin soutenir l'Organisation mondiale du commerce, les demandes de l'Inde, l'Afrique du Sud, etc., qui demandent la levée, notamment des brevets. Des sites de production peuvent aussi être réquisitionnés, hein, c'est d'ailleurs prévu par la loi d'état d'urgence sanitaire, donc on fait passer des trucs dans l'état d'urgence, mais en fait on ne s'en sert pas. Et un pôle public du médicament associant recherche, développement, production et commercialisation, adossé à une politique de planification sanitaire, pourrait être mise en place au plus vite. En gros, il y a encore pas mal de marge avant que la santé ne soit un business comme les autres.
C'est bon. Ah, et maintenant, on va mettre une petite musique. Enfin, une chanson.
Et je me vois encore caresser ses portes chromées. Une sorte de métal qu'on trouve que sur les bécanes. Ses poignets étaient fermes comme les fesses d'une sprinteuse professionnelle. Je viendrai te voir quand j'ai sommeil. Je te rendrai visite en calebar et en peignoir. Et oui, je t'ouvrirai, je te refermerai. Je t'ouvrirai, je te refermerai. Et tu feras toujours ce petit bruit tellement agréable. Et la lumière jaillit comme le divin sauveur. Même les yeux fermés, je te piste à l'odeur. Et quand mes potes sont là, tu seras le fruit du partage. Miroir, miroir, on se voit à travers ta carcasse. T'es pas comme ces conservatrices de bas niveau. Car ça fait une semaine que maman m'a fait ses haricots. Je note mes rendez-vous, les bonnes et les mauvaises nouvelles. Yeah. C'est grâce à toi que je sais quand sortir les poubelles. Les bolides, les bijoux, toutes ces merdes, je m'en prends.
Je viens de réaliser un rêve d'enfant. Ice, ice, baby, donne-moi des diamants. Ice, ice, baby, crache-moi des diamants encore. C'est une histoire de pauvre d'amour et d'eau fraîche. Je m'adosse à toi, j'ai mal au dos, au cou et aux fesses. Je gamberge, et oui, je médite. Je me dis mama, oui, made it. Je me rappelle, négro, de quand j'étais gamin. J'ai découvert ce truc, j'étais chez la mère de Martin. Il était blanc, son frigo américain. Il était blanc, son frigo américain. Et si ma femme me quitte et qu'elle prend les gosses, je lui laisserai tout, je lui prête mes boules. Mais y'a qu'une chose qui ne bougera point, c'est le frigo américain. Le frigo américain. Le frigo américain. Ouais, le frigo américain. Ils sont trop forts, ces putains d'américains. Ouais, le frigo américain. Oh, le frigo américain. Yo, le frigo américain. Ils ont tout compris, ces putains d'américains. Oh putain. Sortez des glaçons. Bah ouais. Sortez de l'eau fraîche. Merde. J'ai resté trop chaud. Je me suis dit, j'en veux un, moi. Ça vient. Quand je serai grand, j'en aurai rien. Américain. Et pas chinois, américain.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et dans la rubrique internationale du Canu Info, je vais donc, moi, pas avoir des difficultés d'élocution à cause d'un masque FFP2, mais à cause, malheureusement, des noms des lieux que je vais citer. Je vais faire le maximum. Si j'écorche les noms, je ne suis vraiment désolé. Je vais donc vous parler de ce qui se passe en Géorgie. En Géorgie, il se trouve que les habitants et les habitantes de la Ratcha Letchkoumi se mobilise depuis le mois d'octobre. Eh bien, contre quoi ? Contre la construction de deux énormes barrages hydroélectriques qui ravageraient une région entière, la région de la Ratcha Letchkoumi. Avec au programme, bien entendu, comme d'habitude, expropriation, spoliation et destruction de la culture locale et des terres agricoles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Ratcha Letchkoumi ? C'est une région du nord-ouest de la Géorgie, pas loin du massif du Caucase, et c'est notamment là que se trouve la vallée du fleuve Rioni. Et sur les berges de ce fleuve, les effluves de la rivière créent une espèce de microclimat qui sont majoritairement autour du village qu'on appelle le village de Tvichy. Et le sol très riche à cet endroit-là, du coup, ça fait un microclimat et un endroit de terre qui est vachement pratique pour la vigne. Et du coup, il y a une espèce d'endroit un peu coulose comme ça, là, une espèce de petit paradis comme ça que les habitants et les habitantes aiment bien. Malheureusement, il y a du coup ce gros barrage qui s'appelle la cascade de Namakwani. Et alors du coup, voilà, on imagine une cascade, un paysage naturel, sauvage, intact. En réalité, c'est la construction de deux énormes barrages hydroélectriques d'une puissance de 400 MW. Déjà, c'est malin parce qu'ils appellent ça Namakwani et pas Tvichy, parce qu'en fait le barrage se trouvera exactement sur le village de Tvichy, mais on utilise Namakwani pour qu'on évite de mentionner du coup ce petit village qui lui est très connu, voire même internationalement, pour son microclimat et ses vignes. Au niveau national, il s'agit du plus gros projet hydroélectrique depuis la fin de l'URSS, et ça va faire disparaître 1500 hectares de la vallée du Rioni, sans retour en arrière possible. Alors, avant tout, ça présente bien entendu énormément de risques écologiques. L'ensemble du projet aura un impact important sur le milieu naturel et aussi sur l'héritage culturel local. D'abord, ça va être la mise en eau du réservoir de 520 hectares qui entraînera l'expropriation de 100 familles. Les eaux engloutiront 3 villages ainsi que les terres agricoles et plusieurs dizaines de monuments historiques et autres sites archéologiques. Ça va aussi créer des risques sismiques importants et ça va changer complètement le microclimat qui permettait de faire pousser la vigne à cet endroit-là, et ça aura des effets irrémédiables. Ce qui va se passer du coup, c'est que le déménagement forcé des familles, des habitants et des habitantes de cette vallée sera accompagné d'une disparition aussi de leurs traditions agricoles et vigneronnes qui sont uniques au monde. Et tout ça se passe alors même que les autorités n'ont pas daigné respecter leur propre code de l'évaluation environnementale. Avec l'autorisation du ministère de l'économie, les travaux ont été lancés sans que l'entreprise fournisse le rapport d'impact environnemental concernant la construction des deux barrages. Face à ça, ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a une grosse lutte intergénérationnelle de toutes les personnes qui habitaient dans le coin qui se sont mobilisées. Ainsi, à peine le chantier avait commencé, qu'il a été interrompu. Les habitants et habitantes viennent 24 heures sur 24 pour l'occuper. Ils font vivre la lutte au quotidien et du coup, c'est vraiment voilà, tous les voisins, toute la famille et tout qui se retrouvent tous les jours sur le chantier et qui se relayent pour pouvoir empêcher la construction de ce barrage. Et face à cette mobilisation d'abord locale, et il y a un certain nombre de collectifs, d'associations écologiques, de personnes qui viennent de toute la Géorgie pour les soutenir. Il y a même du coup des émigrés géorgiens, géorgiennes de par le monde qui envoient des vidéos de soutien. Il y a des contacts qui se font avec d'autres luttes territoriales et il y a une espèce de coordination des luttes contre les grands projets. Il y a une espèce de ZAD géorgienne et du coup il y a une espèce de coordination des ZAD géorgiennes qui est en train de créer. Et du coup il y a... où il n'y a pas une lutte que à l'endroit du barrage, il y a aussi en fait de nombreuses manifestations dans la région autour. Donc d'abord dans la capitale à Namakvani, mais aussi dans la capitale de la Géorgie et dans d'autres grandes villes de Géorgie. La dernière manifestation en date du 14 mars a rassemblé plusieurs milliers de personnes qui demandent tout simplement l'arrêt du projet. Ce qui met particulièrement en rogne aussi les habitants et les habitantes, en fait, c'est l'opacité qui règne autour du contrat conclu entre le gouvernement et l'entreprise. En réalité, c'est que sous couvert, en fait, le gouvernement vend ce projet un petit peu pour une autonomie énergétique, le développement durable et compagnie. En réalité, le gouvernement géorgien cherche à spolier le bien commun naturel en collaboration avec un investisseur étranger, parce que du coup c'est une entreprise turque qui construit ce barrage, et c'est bien avant l'obtention du permis de construire que le gouvernement avait signé un contrat avec l'entreprise turque, c'est-à-dire avant même que le projet ait été validé, le contrat avait déjà été signé. Et l'entreprise a obtenu la gestion de la centrale hydroélectrique pour une durée de 99 ans. On lui a offert aussi toutes les terres qui faisaient partie du réservoir et on a vendu le reste pour l'équivalent. Donc quand je dis le reste, c'est à peu près 1000 hectares pour environ 30 euros. Et du coup, si on pourrait se dire que l'intérêt au moins c'est l'autonomie énergétique seulement, l'entreprise est obligée de vendre l'électricité pendant seulement 15 ans sur le territoire géorgien. Ensuite, elle pourra transporter l'électricité de partout. Donc la colère à cet endroit de la Géorgie monte, elle ne semble pas prête à se calmer. Du coup, depuis la manifestation du 14 mars, les personnes mobilisées contre le projet en viennent à demander la démission de la ministre de l'économie, qui s'appelle Natia Turvana, et une nouvelle manifestation d'ampleur est prévue dans la capitale d'ici quelques semaines. En attendant, les gardiens et les gardiennes de la zone restent debout toutes les nuits et ne cessent de veiller sur la vallée d'Urioni. Je vous rappelle, tout ça se passe du coup dans la vallée d'Urioni, et l'endroit exactement, ça s'appelle la Racha Lechkoumi.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière.
Canu Info.
La police fusille, la police assassine. Qu'elle soit de droite ou socialiste, la police mutile.
Et après la Géorgie, c'est en Suisse qu'on va, où c'est plus de 4 ans après la mort d'Hervé Bondembe Mandundu, tué par 3 balles par un policier, que son procès a eu lieu. Pour rappel, ça s'est passé donc la nuit du 6 au 7 novembre 2016. Quand 5 policiers sont intervenus après un appel pour tapage nocturne. Donc selon la version policière, Hervé les aurait agressés pendant son interpellation, ce qui aurait justifié que l'un d'entre eux, le caporal en plus, lui tire à moins d'un mètre de distance, 3 balles dans le corps, dont 2 qui lui seront fatales. Il était tout seul et il avait 27 ans. Donc c'est le 31 mars qu'a eu lieu son procès, 4 ans après son meurtre, et après un jour et demi de procès et 7 d'attente, la cour criminelle du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rendu son verdict et l'assassin d'Hervé est acquitté et même indemnisé de 35 francs suisses par l'État. Ce procès est le premier de trois affaires de meurtre raciste par la police romande. C'est encore une fois la preuve que les non-blancs doivent se battre deux fois plus pour leur justice et leur dignité. Hervé Bondembe Mandundu était un homme noir de 27 ans et il a été abattu à balles réelles par un caporal de la police du Chablais vaudois qui était accompagné de quatre de ses coéquipiers formés et entraînés. Le caporal, qui est devenu sergent en plus entre-temps, depuis le meurtre, a tiré trois balles dans le corps, dont deux donc, qui lui ont été fatales, je crois que j'ai déjà dit. Ce policier est formé aux arts martiaux et muni d'armes non létales. Il a fait quand même le choix d'utiliser son arme à feu, au péril de la vie d'Hervé, et de viser le thorax plutôt que d'envisager donc d'autres alternatives dont il pouvait disposer. C'est notamment pour ce fait qu'il a été prévenu pour meurtre. Les nombreuses incohérences de l'affaire ont été énoncées par le procureur avant de plaider pour l'acquittement du meurtre. Notamment, la distance entre le tueur et sa victime aurait été plus grande que dans le témoignage du meurtrier. Il aurait donc pu voir Hervé arriver de loin, ce qui remettrait en cause, selon le procureur, la légitimité du policier à tirer. De plus, les policiers ont déplacé le corps et ont tenté de nettoyer le sang. Finalement, le témoignage de voisins et voisines, les policiers auraient pris le temps de se concerter avant d'appeler les secours. Depuis le début de l'affaire, la couverture médiatique ainsi que l'angle du procès ont contribué à rendre cet homicide justifiable, voire justifié aux yeux de l'opinion publique. Il y a eu une confusion nette et délibérée entre qui était la victime et qui était l'assassin. Nous avons ainsi assisté d'un côté aux calomnies à l'encontre d'Hervé. La victime a été salie, dégradée, humiliée et condamnée comme si elle était sur le banc des accusés. De l'autre, nous avons été témoins de la mascarade médiatique, tant dans les médias dits de gauche que dans les médias institutionnels, et de son parti pris pour l'assassin. La presse a inventé à Hervé des tares qui, même si elles étaient vraies, justifieraient pas pour autant sa mort, alors qu'en revanche, elles déplorent la situation dans laquelle se trouve l'assassin. Le verdict fait vraiment froid dans le dos. Donc je rappelle que le caporal a été acquitté et indemnisé à hauteur de 35 000 francs suisses avec l'argent du contribuable. Une fois de plus, un état policier qui protège ses hommes au détriment de la vérité. Pour la famille et leurs avocats, ce procès n'est qu'une étape, le combat n'est pas vain. Il ajoute une pierre à l'édifice de toutes les familles en lutte depuis des décennies contre les meurtres policiers.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et bah dans l'agenda, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose déjà. Dès demain matin, 24 avril, il y a un rassemblement à l'occasion des 67 ans de Moumia, donc 40 ans derrière les wagons, les barreaux. Le samedi 24 avril, du coup, Moumia aura 67 ans, donc 40 années derrière les barreaux, 40 années de détention, dont 30 ans dans le couloir de la mort. Une vie sacrifiée pour ses idées. Le rassemblement aura lieu à 15h, place Louis Pradel. Et oui, du coup, parce que le comité de soutien à Moumia se joint de nouveau à la mobilisation internationale qui a lieu ces dernières semaines pour exiger la libération immédiate de Moumia pour raisons humanitaires. Moumia est actuellement en danger de mort. Sa santé ne cesse de se dégrader. En plus d'avoir été testé au Covid-19, il a été emmené à l'hôpital d'urgence le 15 avril pour subir une opération du cœur. Il a disparu des radars plusieurs jours. Personne n'avait de ses nouvelles. Depuis 2011, la peine de Moumia a été commuée en prison à perpétuité, mais sans libération conditionnelle possible. Il paraît clair que certains le veulent mort plutôt qu'en vie, en lui refusant l'accès aux soins les plus adaptés. Par exemple, ainsi, soyons nombreux et nombreuses à afficher notre soutien à Moumia à l'occasion de son anniversaire. Honorons sa vie, sa lutte et ses idées. Et tout ça, ça se passe demain à 15h, place Louis Pradel.
Et oui, il se passe pas mal de choses demain à 15h à Lyon, mais avant le matin, si vous avez besoin de conseil syndical, c'est le bon moment puisque le syndicat CNT Interco 69 tient sa première permanence d'accueil. Si vous avez des questions sur vos droits en tant que travailleuse ou travailleur, si vous voulez des infos sur la CNT, si vous pensez vous syndiquer mais vous ne savez pas comment faire, si vous voulez vous syndiquer à la CNT et que vous aimeriez rencontrer ses membres, la première permanence de la CNT Interpro, c'est donc demain, le samedi 24 avril 2021, au 44 rue Burdeau, dans le premier arrondissement, entre 9h et 11h. N'hésitez pas à y aller, cette permanence est mensuelle, c'est la première. Il y aura donc bientôt de prochaines dates.
Et toujours demain, dans l'après-midi, il y aura une réunion publique autour du mal-logement. À À cette occasion, on pourra donc découvrir la CAL, la Coordination d'Action pour le Logement Lyon et des Environs. Ils pourront aussi présenter les revendications et aussi comment organiser les prochaines mobilisations pour un logement digne pour toutes et tous. Donc pour ça, rendez-vous donc demain à 16h30 à la Maison Sans Souci, qui est au 12 rue Édouard Rochet, dans le 8e.
Je crois que 15h, c'est aussi l'heure de rendez-vous pour le rassemblement lesbien dont tu parlais tout à l'heure.
Tout à fait.
Demain, et par ailleurs, un autre rendez-vous le 27 avril, donc si je compte correctement, c'est mardi. Non, c'est mardi ou mercredi?
Ouais, c'est mardi. Ah, je te confirme, ça sera mardi.
Il y a un appel à rassemblement donc le mardi 27 avril pour soutenir l'illégalité, qui est un centre social autogéré ouvert depuis 5 mois vers QC à Villeurbanne. Et en effet, le 17 mars 2021, l'illégalité a été confirmée, son expulsion sans délai, du lieu de solidarité du collectif Solidarité QC, donc qui est aux 6 rues de l'égalité à Villeurbanne. Le collectif écrit « Nous dénonçons avec force la décision du tribunal d'instance de Villeurbanne de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale et le délai de 2 mois prévu par la loi. Cette décision s'inscrit dans la logique répressive contre les squats menés par l'État depuis plusieurs années. Expulser l'illégalité, c'est mettre un coup d'arrêt à un processus collectif d'auto-organisation. C'est vouloir empêcher que la prise en charge collective de nos lieux de vie apparaisse comme une alternative convaincante et désirable au modèle capitaliste actuel. » Dans une période politique marquée par l'autoritarisme de l'État, la multiplication des mesures racistes et le durcissement sécuritaire, nous revendiquons le droit à nous organiser pour une vraie justice sociale. C'est pourquoi, en parallèle des rassemblements et événements organisés contre l'expulsion, nous avons saisi le GEX, donc c'est le juge des exécutions des peines, qui a la possibilité légale de nous accorder un délai supplémentaire. La situation précaire des habitants et habitantes, le contexte d'un reconfinement et le durcissement de la crise sociale devraient être des arguments amplement suffisants. Donc le collectif invite à venir les soutenir le 27 avril, donc mardi à 13h, devant le tribunal de grande instance de Lyon, rue Servian, donc l'an 3e, pour montrer que l'île Égalité est toujours debout et qu'elle compte bien encore flotter un petit bout de temps sur les rivages de QC.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire « AKA ».
Et ben, personne n'a appelé le Canu Info du vendredi pour donner un ACAB. Je vous rappelle le numéro, c'est 04 78 39 18 15, si jamais vous voulez donner une idée. Ben alors moi, je vais en faire un comme ça. Voilà, j'en fais un, il sort de moi, et comme ça, hop. À Canu, on n'aime pas les Batoukada.
Ah, bah oui, Batoukada hors de nos luttes. Mais par ailleurs, ça veut aussi dire all chômeuses et chômeurs. Beautiful, évidemment, en cette journée de manifestation contre la réforme du chômage.
Et le Canu Info du vendredi, on imagine que c'est terminé pour cette fois. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, amusez-vous bien.
Ouais, bonne soirée, bonne semaine.